J'aime pas les au revoir.
J'aime pas les au revoir.
Oh, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, oh, les voyages, comme vous fûtes sage de nous donner ces images.
J'aime pas les au revoir.
Aventure.
Paysage.
Rue.
Place.
Bourlinguer.
Vagabondage.
Globe-trotteur.
Globe-trottage.
Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special.
Salut à tous et bienvenue dans J'aime pas les au revoir sur Radio Saint-Af, avec Momo bien sûr. La vie suit son cours, l'automne s'installe, les camions vont démarrer pour le bled, les billets sont dans leurs pochettes. À nous le soleil en hiver pour fuir le soleil vert que l'on essaye de nous faire bouffer. Yann tous, c'est l'automne. Il y a les voyageurs de la première heure, ceux qui plus tard se lèvent un matin et se disent « Pourquoi pas moi ?» Et si j'allais voir ? Il doit bien y avoir une raison pour que tous les copains se tirent voyant les feuilles tomber. Ah, on est enrhumé dans le studio. Il y a ceux qui font du voyage leur identité, qui se la jouent baroudeur, toujours de passage, et ceux qui rentrent et n'en reparlent plus comme une parenthèse dans leur vie. Enfin, trêve de mystère, j'accueille aujourd'hui Yann. Oui, Yann, tout juste sorti de sous une bagnole. Mais non, tu sens pas le gasoil. Et puis, ça a son charme, c'est sûr, faut être connaisseur. Mais moi, j'aime bien. C'est une odeur de voyage. Quand t'as mal purgé la pompe à gasoil des deux moteurs que tu descends au bled, ça sent pas le lilas dans le camtar. Yann, un cœur tendre à qui aucune panne ne résiste, même s'il faut sortir la baramine. Yann, il est pas fan de classique ou de reggae. Il lui faut du rock, voire punk. Faut que ça vibre, faut que ça crache, faut que ça saute à la face, au plafond, et ça jusqu'au bout de la nuit, voire du week-end. Bref, Yann, c'est un cœur d'or couvert de cambouis. Toujours partant pour boire un verre à la santé de celle qui nous a quittés ou qui finira par nous larguer. Toujours là pour dépanner ou débarrasser les carcasses au fond du jardin. Il ne manque jamais une bringue et il faut dire que pendant 3 mois, il manquait quelque chose à notre petite ville endormie. Alors, où était notre ferrailleur adoré, notre dépanneur de l'impossible, notre Ken Cambouis ? Salut Yann, ça va ?
Bonjour, ça va super.
Ouais, bien. Bon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de mettre les mains dans le moteur, pourquoi es-tu parti ? Qu'est-ce qui t'a pris de te barrer ?
Ben, on m'a envoyé me faire foutre, alors j'y suis allé.
Bien, qui t'a envoyé te faire foutre ?
Oh, des histoires d'amour qui finissent mal, général.
D'accord. Bon, t'as, pour éviter une cuite de plus, t'as dit « je me tire à l'autre bout du monde ».
Non, j'étais déjà rôti, alors j'ai pas réfléchi, j'ai pris le billet.
Tu l'as pris comme ça, coup de tête, quoi.
Ouais, une semaine avant.
Ouais.
Une semaine avant, Internet. Je vais où ? Amérique du Sud. Ben, j'ai cherché moins cher. Madrid-Lima, Banco.
Ouais.
On pile sac, on s'en va.
T'as fait un sac ?
Ben, un petit sac à dos, ouais.
Ouais, t'as pris une clé à molette ou ?
Non, rien.
Que dalle.
Que dalle. Bon. Si, un couteau. Que j'aurais pas dû.
Merde, tu te l'es fait chourer à l'aéroport.
Non, il m'a fait rater mon avion Toulouse-Madrid.
Oh merde. Bon, ben tant pis. Du coup, tu es parti où ? Lima, tu
me dis. Lima, au Pérou.
Bon, tu es de Paris ?
Non, de Toulouse.
Toulouse.
Donc Toulouse, je voulais faire Toulouse-Madrid en avion. Donc j'ai raté l'avion à cause d'un couteau dans mon sac. Donc après, j'ai couru pour prendre un train.
Il te laisse prendre le train avec un couteau.
Ouais. Non, je l'ai laissé mon couteau à Toulouse.
Ah, d'accord.
En poste restante. Et donc, du coup, course 12 heures pour arriver à Madrid en partant de Toulouse. Je me suis dit, s'il n'y a plus de train, je pique une voiture. Bon, il y a eu des trains. J'ai pas eu à piquer de voiture.
Bon, tant mieux. Et du coup, tu arrives à Lima, quoi, c'était quelle période ?
C'était un peu avant Noël, j'ai parti en novembre, le 7 novembre, je crois que c'était, un truc comme ça. Lima, c'est grand, c'est moche, ça pue, c'est gris, et puis le Pacifique, il est trop froid pour s'y baigner. Donc j'y suis resté une nuit au petit matin. On est parti.
Ouais, t'es parti tout seul ?
Ouais. Tout seul, avec moi-même.
Bon, et bien ça promet.
Mais on s'entendait pas trop encore.
Ah oui.
Ah ouais, il me disait des trucs, je disais autre chose. Je voulais y taper dessus, mais je n'avais pas la force.
Bon, ça va aller. Et du coup, t'as réussi à te réconcilier avec toi-même
Ouais.
D'accord. T'arrives à Lima, et tu bouges où, du coup ?
Je me promène en ville, je vois un bus qui s'en va, je monte dedans, je sais pas où il va. Donc, il remonte vers le nord, Barranca, je crois que c'est appelé. Donc, je monte vers là-haut. Puis, je me dis, puisque le bus, il va vers là-haut, je vais orienter mon voyage vers le nord. Enfin, moi, je me dis vers le sud, parce que je suis français, et puis que pour descendre chercher le soleil, on va vers le sud en France. Puis là-haut, donc, en fait, quand on veut aller, on va vers le nord. Erreur fatale, puisque le lendemain, je descends dans le village, et puis je dis, vers El Soud. Ah, si, El Soud. Alors je monte dedans et puis je m'aperçois que je suis refait la route vers l'autre sens. Mais si, j'ai déjà vu ces carcasses de bagnoles. Puis après, je calcule que je redescends vers le sud. Donc finalement, je rechange mon itinéraire pour aller à Chourine, source d'eau chaude, traverser les Andes. Un endroit pas touristique du tout. Passer dans les mines de plomb, les trucs comme ça. Avec que des gens qui n'avaient pas trop vu des touristes, qui se foutaient bien de ma gueule parce que j'étais barbu. En France, tu en es imberbe et je suis petit. Là-bas, je suis quand même assez grand et vachement barbu, comparé à eux. Alors, c'est peut-être de ma gueule. Ils disaient que si je voulais choper des filles, il fallait qu'elle la barbe.
Bon, très bien. Du coup, tu as décidé de te raser.
Voilà, donc le soir même, je me suis rasé la barbe.
Bon, et alors, ça marche ?
Non. Il fallait parler mieux espagnol ou peut-être avoir plus de... Plus de sous sur soi, je sais pas.
Tu parles pas bien espagnol.
J'ai oublié un peu. Ça revient avec deux, trois verres d'alcool après. Puede hablar. Poco mejor.
Et du coup, tu bois quoi ?
Là-bas, c'est soit du rhum importé qui est cher, ou sinon de l'alcool, d'une espèce de rhum fait maison qui est pas cher et qui tabasse.
Que de l'alcool fort, quoi.
Sinon, il y a de la bière, ouais. Ils font de la bière, il y en a des pas dégueulasses. Au Pérou, il y a la Cusqueña, qui font en 3 ou 4 versions. Il y a les couleurs or, les argents, triple fermentation, la Trigo, là.
Ouais, ça va, quoi.
Ouais, bonne bière. Ou après, ils ont des trucs, des espèces de pils, ça c'est moins bon, ça.
Ouais.
Façon 8-6,
Toi, t'étais déjà parti en voyage ?
J'avais fait le Maroc, un mois. La Belgique, une semaine. La Belgique, c'était bien aussi. Hein. Ça dépayse tout le temps.
Ouais, du coup, là, et t'as pris un billet fermé hein, ou...
Ouais, 3 mois, arrivé Lima et redépart de Lima. Chose que je ne referai pas la prochaine fois. J'atterris quelque part et je redécolle de là où je suis. Et si j'y suis bien, je redécolle plus.
Bon, d'accord, à bon entendeur. Bon, ce serait dommage de te perdre quand même, Yann.
Oh, mais si c'est moi qui me retrouve.
Bon, d'accord. Donc, tu redescends dans le sud, les sources d'eau chaude
Ouais, en fait, après, je pars en direction l'est. Ça m'a fait sauter les Andes et arriver dans la selva. Parce qu'en fait, il y a la cordillère des Andes. Il y a un côté, c'est assez proche de la mer et c'est un peu désertique.
Ça, c'est côté Lima, du coup.
Voilà, ouais. Côté Lima, toute la Panaméricaine. Là, c'est assez désertique, il n'y a pas grosse végétation. C'est des zones maraîchères, des serres à perte de vue, du plastique partout. Des élevages de poulets sous serre, c'est moche, 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 tout droit, moche. Et de l'autre côté, ben, c'est la selva, ça, les rivières partent vers l'Amazonie. Et là, ben, ouais, c'est fleuri, des cocotiers, des machins, des manguiers, des avocatiers, tout ce qu'il faut pour manger en se promenant. Un caillou dans l'arbre, il tombe des fruits, tu manges, c'est gratuit.
Ah oui.
Puis il fait bon, il y a des rivières partout, tu te baignes, tranquille.
Il y a du monde ?
Ouais. Ben, beaucoup, je croisais beaucoup d'Argentins, de Brésiliens qui voyagent. Parce qu'après, les Péruviens, ben, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas d'argent, ils travaillent. Bon, à mi-temps, hein, 12 heures par jour.
Ouais. Normal, quoi.
Donc finalement, on croise ceux qui ont... ouais, les Argentins, les Brésiliens, qui ont un peu plus d'argent. Hein. Mais qui savent bien faire la fête.
Bon, ça va, c'est rassurant. Bon, on s'écoute un petit morceau et puis... on verra la suite.
Allez, on verra la suite.
Allez, c'est parti.
Inch'Allah.
Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dure sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Les feuilles mortes sont tombées, couleur ocre orange. Absorbé par cette image, le petit marche dans les pots d'orange. Sa cagoule gondole, sous la pluie toute trempée. Dans sa poche des billes, quelques Kiri écrasé, l'en a ras-le-bol de ras-le-bol, il est frigorifié. L'odeur humide des feuilles mortes qui lui chatouille le nez. Il est tout petit, pourtant le spleen a fait son entrée. Sombre après-midi et dans sa tête tout s'est embrouillé. Il sait pas si maman c'est à 4h ou à 5h30. Il sait pas pourquoi la dame est méchante à la garderie. Il emporte avec lui quelques bons becs et des chocs aux rêves. L'écorce des arbres est trop dure pour faire couler la sève. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dure sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Le ciel s'obscurcit, il croque dans un pépito. Il fait presque nuit, une lumière glauque dans le préau. Ça souffle, alors il s'en mitoufle. Il sent même plus le vent qui siffle. Les poings serrés dans ses moufles, il morfle. Pense un peu à Goldorak, des miettes de pain au chocolat durci dans son anorak. Il veut s'échapper, voudrait que maman vienne le chercher. Il cherche l'entrée, priant qu'elle l'ait pas oublié. Dans la cour, ses crades, odeur d'orange et de pourriture. Les feuilles mortes glissantes, gluantes sous ses chaussures. Les cris des autres, la graisse, serre les dents et snob les costauds. Il est 7h30, toujours personne dans le préau. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dure sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau.
De retour sur Radio Saint-Av dont J'aime pas les au revoir avec notre ami Yann. On fonce vers le nord du Pérou. Alors, en bus, bien sûr, mon petit Yann.
Ouais, bus collectivo, les trucs les moins chers.
Vous êtes combien là-dedans?
Un collectivo, bah, c'est des petits Nissan Vanette rallongés de 15 cm. Et on rentre à 15. 15 assis et il y a encore 5-6 places debout. Les bagages sur le toit. C'est comme le Maroc.
Ouais.
Tant qu'il en rentre, on y en met.
Ouais,
et tant que c'est pas plein dedans, on en met d'ailleurs.
Tant que c'est pas plein, on démarre pas.
Ben c'est toujours plein. Ça se descend, ça remonte. Et ils font la course. Ils sont 3-4, ils se doublent, ils se redoublent. Dès qu'il y a quelqu'un qui lève la main, il pile. Celui de derrière, il pile, il redouble. J'aimerais bien faire chauffeur des taxis là-bas. C'est mieux que Grand Tourisme.
D'accord. Bon, du coup, tu fonces vers le nord.
Voilà. Après, j'arrive à Tingo Maria. Et là, ben, Tingo Maria, c'est un peu le Saint-Afrique du Pérou. Plein de hippies, plein de voyageurs. Une grande place. Ça joue de la guitare, ça fait des bracelets brésiliens. Des petits spectacles, des jongleurs au feu rouge. Je m'y sens bien.
Ouais.
Alors, le premier jour, je loue une moto, je fais le tour tout ce qu'il y a à faire. Je m'éclate, des roues arrière partout.
Non, de Dieu.
Donc j'arrive sur une route à fond la caisse. Et là, je vois une barrière avec des flics. Et je me dis, oulala, là, gringo, tu vas payer cher. Et les flics me disent tout simplement que non, no es un pueblo por los gringos. Alors j'insiste pas, je fais demi-tour et arrivé le soir, ben, on m'explique que c'est une vallée réservée aux Péruviens et que là-bas ils fabriquent un produit qui s'appelle coca, je sais pas quoi, cocaïne ou un truc comme ça. Et que non, c'est fermé aux touristes, on peut pas y aller. Donc je me suis dit, ben, tant mieux qu'ils m'aient pas arrêté, qu'ils m'aient pas relevé, que je roulais vite et que je posais qu'une roue par terre de temps en temps. Et puis ben de là, ben je me suis fait tatouer, croiser un tatoueur qui faisait des tatouages au stylo bic.
D'accord. Au stylo bic.
Tatouage temporaire.
D'accord.
Pour les touristes. Mais super bon. Donc il me tatoue, ce qui fait qu'il a 3 sous. Et donc ben il m'accompagne après direction Pucallpa. On a fait une semaine, 15 jours ensemble, en passant par sa famille. On a fait 2-3 jours dans un village, dans sa famille, visiter plein de petits trucs que moi je ne connaissais pas. Et puis voir comment on voyage au Pérou quand on est péruvien. Bien intéressant. Voir que tout se négocie, les prix ne sont pas les mêmes. Même au supermarché, dans les épiceries, tout se négocie. Que pour aller manger, on ne s'arrête pas aux premières qui sont en bord de trottoir. On va plus à l'intérieur, des petits guingois, tac, tac, tac. Et là, t'as les mamitas qui te font bien à manger, pour vraiment pas cher.
Et tu manges quoi?
Pollo.
Pollo.
Arroz con pollo, pollo con arroz. Y pasta.
D'accord.
Ouais, beaucoup de poulet. Après, il y a du porc et du couille.
Du couille?
Du couille. C-U-Y. C'est du cochon d'Inde. Ils élèvent des cochons d'Inde pour les manger.
Alors, c'est bon?
Ben ouais. C'est entre le lapin et le cochon. Parce que c'est à peine plus gros qu'un lapin.
Mais c'est gros quand même. C'est pas les cochons d'Inde qu'on a dans nos cages.
Parce qu'ils les engraissent bien, ouais. Ouais, c'est gros. C'est un peu plus gros qu'un lapin, ouais.
Ah ouais, d'accord.
Et c'est un peu le goût du porc, ouais. C'est pas mal. Bon, après, c'est souvent trop cuit.
C'est épicé?
Non, pas tant que ça. Parce qu'ils le font à la broche. Sur un barbecue à la broche, et puis tant qu'il n'est pas mangé, il reste sur la broche. Donc des fois, ça fait un peu longtemps qu'il y est, c'est sec.
C'est du kebab.
C'est les kebabs péruviens.
D'accord. Donc, et comment il s'appelait ce bonhomme-là?
Je l'ai marqué. Fury. Non. Oh, là, à la colle. Je l'ai marqué quelque part. Ouais, c'est souris ou fourri, un truc comme ça.
Et lui, il est tatoueur, c'est son job.
Il était tatoueur permanent. Et en fait, après arriver un peu plus tard à Pucallpa, parce que là, c'était une grosse embrouille. On est allé dans un studio de tatou qu'il connaissait. Il connaissait le gars. Donc moi, j'avais négocié le prix avec celui qui me tatouait. Mais pour lui, enfin pour moi, lui, il s'arrangeait à repayer le gars. Et en fait, le gars, il me redemande la somme du tatouage à moi. Là, j'ai dit, ah non, non, non. Moi, je l'ai déjà payé une fois. Je ne vais pas le payer deux. Donc, petit coup d'esbrouf, il monte en tension, je reste calme, je dis que non, s'il y a des sous à donner, c'est le Péruvien qui le donne à lui, quoi, vous arrangez entre vous. Donc finalement, c'est redescendu, ils ont essayé de me prendre plus, mais ça n'a pas marché. Donc on est reparti, le lendemain matin, je crois. Non, le soir, on est reparti assez vite. Apparemment, je crois qu'il était pressé de partir aussi.
fallait...
Ouais, il y avait tension.
Bon, c'est bon. Et du coup, tu montes au nord, là, encore?
Ouais, on continue vers le nord.
Toujours avec lui?
Toujours avec lui. Là, l'idée, c'est de partir à Iquitos. Donc, pour aller à Iquitos, de Tingo Maria, on remonte jusqu'à Pucallpa. Et Pucallpa, après, c'est en bateau. Une semaine de bateau pour arriver à Iquitos.
En bateau?
En bateau, ouais. Iquitos, en fait, c'est au centre de l'Amazonie. Il n'y a pas de route qui y va. On y va soit en avion, soit en bateau. Il n'y a pas de route qui va là-bas. C'est vraiment au cœur de l'Amazonie, du côté péruvien. Bon, j'y suis pas allé, parce que c'est une semaine de bateau pour y aller, une semaine de bateau pour repartir. Et que, ben, y a plein de moustiques là-bas. J'ai essayé de voir, mais j'ai pas fait mes vaccins. À peur des piqûres. Et puis les moustiques, là-bas, ils font presque la taille de guêpe. Et puis quand ça te pique, ça te fait des balles de ping-pong. Donc je me suis dit, une semaine en bateau, à me faire dévorer par des moustiques. Et puis j'ai pas le truc, c'est pour la fièvre jaune, ou je sais pas quoi, là, le palud.
Ouais, le palud.
Alors je me suis dit, bon, on va pas y aller, finalement, à Iquitos. Et puis le tatoueur m'a fait un plan. Enfin, je suis parti faire une séance dans un village à côté de Pucallpa qui s'appelle San Francisco, faire une séance à ayahuasca.
D'accord. Alors l'ayahuasca, c'est un gros trip, quoi. Pas trop attrape touriste.
Si, il y a un business autour de ça, mais c'est pas, on peut pas considérer ça comme une drogue. C'est plus un médicament, un truc thérapeutique. Parce que c'est vraiment pas drôle à vivre. C'est pas le genre de truc qu'on prend pour aller faire la fête, puisqu'on passe 2-3 heures à vomir partout.
Vas-y, raconte-moi un peu, toi, les mecs qui t'ont proposé, c'est toi qui...
Bon, on m'en a eu parlé, et après je suis reparti voir ce village pour déjà voir un peu c'était quoi l'ambiance. Donc je suis resté 2 jours... Vu les gens, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Puis finalement, j'ai croisé un Belge qui m'en a parlé mieux. Je me suis dit, je vais quand même essayer. Et en fait, c'est une liane séchée, c'est une mixture à boire. Et qui va agir en fait sur toute l'eau qu'on a dans le corps. Donc après, c'est un peu spirituel et chamanique.
D'accord.
Mais c'est sur la mémoire de l'eau. Ce qui fait que ben, quand tu ingurgites le truc, pendant un temps, tu es un peu en transe, il t'arrive plein d'idées bizarres. Enfin, moi, c'est mon expérience, peut-être que d'autres, ça fera autre chose. Plein d'idées bizarres, des flashs de passé, d'événements marquants sur ses vies, sur sa vie, sur tout ça. Donc, c'est pas super agréable de revivre des moments de son passé qui nous ont pas plu, quoi.
Genre, c'est en mode rêve ou...
Ouais, des images. Des images, des scènes de profs qui te font chier, qui te...
Ah ouais, non, c'est l'horreur.
Tu vois, des trucs, des événements marquants qui finalement t'ont fait chier dans ta vie, qui t'ont frustré, quoi. Donc moi, il m'est arrivé plein de trucs comme ça, puis après, tu sens ton estomac qui fait des vites, et puis t'as un seau de 10 litres devant toi, puis tu commences à la remplir. Et puis, ben, quand il est aux 3 quarts, il y a une bonne femme qui arrive, qui te sort et qui t'en met un autre. Et là, tu le re-remplis. Puis là, tu te dis, ben, je vais aller faire dehors. Et puis, ce que j'ai mis dehors, j'ai dû rebalancer encore 10 litres. J'ai dû vomir une vingtaine, trentaine de litres de flotte. Ah ben, on est composé à 70% d'eau. Hein. Et donc, sur la mémoire des lots, en fait, en vomissant toute cette eau, on se purifie un peu l'esprit, on fait sortir plein d'idées, enfin, c'est un peu dur à expliquer, mais plein de choses qu'on a en nous et qui le lendemain, enfin, je me suis réveillé comme un sous-neuf, j'étais tout, waouh, un beau réveil, en me disant bien bonjour, ah bah tiens, une journée, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oh, c'est beau la vie aujourd'hui.
Mais pendant cette expérience, t'es conscient?
Oui, t'es conscient, tu te souviens de tout...
Toi, t'as les yeux ouverts quand les images, elles arrivent, quand tout ça...
Ben, là, moi, ça se passe en général le soir, dans une hutte. Mm-hmm. Donc, on met pas de lumière. Moi, j'étais tout seul avec le chaman, mais souvent, ça se fait en groupe aussi. Donc, comme ça, ben, tu vois pas les autres qui vomissent ou... Mais non, ouais, tu restes conscient. C'est pas des trucs qui t'amènent... c'est pas du délire ou... C'est pas agréable comme d'autres produits...
Ouais.
Non, c'est vraiment c'est un travail sur soi qui ça déboîte. Ouais. Ça donne pas envie de faire la fête. Puis tu te sens intérieurement comme une grosse gastro quand même quoi. C'est vrai, enfin, tu vomis mais tu fais pas que vomir aussi, ça peut dans tous les orifices, bon pas par les oreilles. Mais ça fait bizarre.
C'est la grosse purge quoi.
Ouais, il faut prévoir des caleçons de rechange quoi.
D'accord, chouette l'ambiance, hein. Et du coup, vu que t'es tout neuf là, purgé à souhait, qu'est-ce qui t'arrive?
Je me dis, on va continuer sur ce truc, on va garder cette énergie, donc je me promène un peu dans le village, et après le chaman, il me dit qu'il a senti en moi encore beaucoup de mal-être, et que necessito de limpiar, necessito una cura.
Ah ouais, carrément.
Una semana, 10 días, para 1500 soles.
Solo?
L'équivalent, ouais, ça faisait, il me demandait 150 euros, quoi. Ouais, pour une semaine de cure, avec des produits magiques, pas que de l'ayahuasca, un peu d'autres trucs. Donc là, il me dit ça, et puis je me dis, mais il me prend quand même un petit peu pour un gringo, lui. Donc du coup, je vais me promener, je m'écoute Chuck Berry dans les petits cubes chinois, là, tac, tac. Finalement, je m'écoute ça pendant 2-3 heures, je reviens le voir, et puis j'ai dit que j'ai pas besoin d'une cure, hein, que j'ai trouvé un bon chaman, et j'y vais écouter. Donc il était mort de rire, a bien rigolé, et puis le lendemain, je suis reparti, hein, parce qu'à me dire 150 euros pour une semaine de cure, ça fait quand même cher la cure, quoi.
Ouais, vaut mieux s'écouter un bon morceau de Chuck Berry qu'on va écouter, d'ailleurs.
Ouais.
Allez, c'est parti. Chuck Berry. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. Cooking the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Yes, aïe, on vient de se purifier à l'ayahuasca avec Yann, là. Ça va de suite mieux. Bon, on n'a pas foutu plein le studio, heureusement. Tout le monde en sera bien content. Et du coup, Yann, frais comme un gardon. Donc, qu'est-ce qui t'arrive dans tes aventures extraordinaires en Amérique latine?
Qu'est-ce qui m'arrive? Après, je pars, je redescends, Tingamaria, pour remonter à Chachapoya, puisqu'Iquitos, ouais, trop de moustiques, le bateau, là, changement d'idée. Donc, comme je n'avais pas fait de programme, je ne le modifie pas. C'était plus facile.
Ouais, c'est pratique.
Prévois rien, tout se passe comme prévu.
C'est ça.
Et donc j'arrive à Chachapoya. Chachapoya, c'est un vieux village. Je sais pas vraiment les années, mais c'est un truc qui doit dater des années 1100, 1200.
Précolombien.
C'est déjà précolombien. Et à côté, il y a un site qui s'appelle Cuelap, qui est lui vraiment bien précolombien, pré-inca même, qui est tout en haut d'une montagne. Je crois que là-haut, on devait être à 3500 ou 4000 mètres. Bien joli, beau paysage.
C'est quoi, un temple,
hein? Ouais, c'est un village fortifié où ils ont réuni des montagnes et il y a les. Enfin, il faut le voir, c'est quand même super joli. C'était tout construit en pierre, en rond, un peu forme de yourte, mais en pierre avec des. Et les toits sont en chaume. Enfin, c'est pas de la chaume parce que c'est une autre végétation, mais de la paille tressée pour faire les toits.
D'accord. Et les gens, ils habitent là-bas?
Non, là, c'est un village, c'est plus habité, c'est touristique.
D'accord.
Mais moi, j'ai pris le chemin à l'envers. Ce qui fait que je suis arrivé par la sortie à l'heure où c'était la pause déjeuner. Ce qui fait que j'ai pas eu à payer l'entrée, j'ai pas eu à payer le guide. J'ai fait ma visite tout seul, jusqu'à trouver un guide qui m'explique. Bon, j'ai très bien compris ce qu'il me disait, mais je disais « No entiendo, soy francés. No entiendo, no entiendo. » Donc j'ai réussi à finir ma balade et puis redescendre. Il y avait quand même une quinzaine de kilomètres.
Ah oui.
Pour monter là-haut. C'était sympathique.
À Yep.
À pied, ouais.
Okay. Et il y a du monde, il y a des touristes là-bas.
Ouais, il y a quand même beaucoup de touristes. Mais eux, ils arrivent de par une autre route. Ils prennent des combis en voyage organisé. Font plus de kilomètres, ils redescendent d'une vallée, ils arrivent de par un autre côté, et après ils ont 3-4 kilomètres pour arriver au site. Et moi je suis arrivé par en bas, donc c'est ouais, une dizaine, une quinzaine de kilomètres où tu montes, puis après bah, tu te refais dans l'autre sens.
Et c'est qui les touristes?
Bah, c'est soit des Péruviens de Lima, nos Parisiens, quoi, ceux qui travaillent dans le monde babylonien, qui ont des sous, ou après bah, des Américains, Australiens. Toute la faune de touristes qu'on peut recroiser chez nous ou ailleurs, quoi.
D'accord.
Ceux qui ont les appareils photos, les claquettes et les lunettes Ray-Ban.
À la classe.
I love New York.
Bon, très bien. Tu redescends après?
Je redescends, je remonte à Chachapoya. Et là, je croise. Enfin, je me promène en ville et je vois dans une pharmacie une nana que je fais waouh! Donc finalement, je me dis, tiens, j'ai pas un truc à acheter à la pharmacie. Donc je me dis que si, allez, hop, on va acheter une connerie, demander un renseignement, un truc, tout. Donc je prends contact avec cette jolie fille, Maïté.
Maïté.
Qui est une sévilloise d'Espagne. Sévillane, on dit. On dit pas sévilloise. Une fille de Séville.
D'accord.
Et donc, on discute un peu. Le lendemain, on se fait une rando vers les chutes de Gocta, je crois. Golta. Enfin, la troisième chute les plus hautes du monde. Il y a 5 km de chute, je crois.
De haut, 5 km ouais. De haut.
Quand tu es en bas, l'eau, tu la vois pas. Si tu la vois qui sort de la montagne. Elle arrive sur un palier et de là, elle ressort. Tu la vois qui sort. Elle arrive en bas, en fait, c'est un brouillard. Tellement ça tombe de haut, ça se pulvérise et ça retombe dans un bassin. Et après, tu as une rivière, comme, je sais pas, une petite rivière du coin, là, style le Lin, qui repart. Quoi.
D'accord.
Mais c'est vraiment impressionnant là, que ça tombe de tellement haut que l'eau disparaisse et que se reforme après dans le bassin du bas. Et là, c'est une grosse végétation.
Tropicale.
Là, c'est la selva, ouais, c'est tropicale, plein d'oiseaux partout. Des serpents, bon, toujours des moustiques, plein de petits oiseaux, des colibris, des trucs comme ça, des fleurs super belles. Et les colibris qui nagent au milieu. Endroit magnifique. Une belle discussion avec cette Maïté. Mais elle se promenait avec un gars, Dani, je crois qu'il s'appelait. Alors je ne savais pas si c'était son mec ou pas son mec. Et je me suis rendu compte que c'était pas son mec, que le dernier jour, quand elle s'en va. En googlant, non, comment dire, en s'envoyant des mails. Et donc finalement, moi je continue après à pied, je rencontre deux Français d'Annecy à fond de rando. Donc on se branche pour aller faire la Laguna del Condor. Si C'était une rando qu'ils avaient sur des sur un bouquin spécial randonneur qui nous envoyait pendant 3 jours aller voir une lagune où ils ont retrouvé des momies, plein de momies, comment dire, impactées, ils sont pliés en 4. Ils avaient trouvé ça dans les falaises, donc on voulait aller voir ces falaises et cette lagune. Donc on arrive dans ce village, on fait le tour du truc pour savoir si on peut trouver des plans, des relevés topographiques, une carte. Ouais. Et au bout de 2 heures qu'on fait le tour du village, il arrive quelqu'un qui nous arrête, qui dit hop hop hop, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas, c'est seulement avec un guide. Alors le guide...
Lui, il est guide.
Et non, lui, c'est le chef du village, mais il faut aller sonner chez le guide, et puis le guide... C'est, je ne sais plus combien, 100 ou 150 sols par personne. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'y va pas à pied, on y va à cheval. Donc il faut louer les chevaux et c'est encore 150 sols. Sur le truc, on se dit, ils nous prennent pour des pigeons. Et ouais, on se dit, on s'en fout, on va y aller à pied. Et puis si on voit un chemin qui va vers la direction, on le prend. Bon, on n'a pas trouvé le chemin. On a juste trouvé une route où on s'est dit, de toute façon, on va rejoindre la ville par là-bas. C'est la route qui y mène. Puis on marche à pied, le temps de trouver un chemin. Si on trouve un chemin qui va vers la direction, on voyait à peu près la direction, c'est derrière ces montagnes, par là-haut. Donc on marche, on voit pas de chemin. Puis on se dit, de toute façon, on fera du stop. Puis pas de voiture non plus. Donc on marche toute une journée, pas de voiture. Et arrivé à 5h du soir, on voit un taxi qui monte, on l'arrête. Et mec, il dit, nous, on va par là-bas. Il dit, moi, je m'arrête au chantier. Il dit, quel chantier? Alors on monte quand même. Perçoit qu'on avait encore beaucoup de route à faire et on arrive en fait à un endroit où il y avait un pont. Et là, le pont, il est en bas et ils sont en train de construire un nouveau. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de voiture depuis le matin. Nous, on voulait faire du stop sur une route fermée. Donc on a réussi à passer entre taxis qui ramènent des chauffeurs qui étaient malades ou machin, et puis après des paysans en tuk-tuk, en camion de chantier et de camion de chantier. Belle rando finalement aussi sur 3 jours. Traverser des champs en altitude où il y avait plein de vaches, des champignons dans les bousses de vaches. Alors bon, comme on avait un peu faim, on en mangeait un peu par-ci, un peu par-là. C'était rigolo quand même.
D'accord, des drôles de champignons. Alors.
Ouais, des tout petits là.
Ouais, d'accord, je vois. Bon, très bien, tu redescends, tu finis par redescendre dans le sud ou
Non, on continue vers le nord. Donc après, on arrive à, je sais plus comment elle s'appelle, cette ville, grande ville, après avoir fait du stop et être sur le toit d'un camion pendant 8 heures. Mais comme dans les Andes, il y a les vallées où c'est bas, puis après, quand tu montes, tu montes à 4005. Donc quand tu es en bas, tu fais du stop, tu es en short, tu es torse nu, les lunettes de soleil, tu te la pètes. Tu montes sur le toit du camion, tu dis c'est super, c'est mieux que le bus. On est au plein air, on a la panoramique, on peut regarder dans tous les sens. Mais au fur et à mesure que le camion monte, tu mets ton pull, et on est arrivé à... J'ai oublié le nom de la ville, Chiclayo. On est arrivé à Chiclayo, on était enfermés dans nos sacs de couchage, à tenir la bâche du camion par-dessus et claquer des dents, mais on n'en pouvait plus. On a pris la flotte, la grêle, le vent... Tu descends du camion, tu vas au premier hôtel et tu dis j'en veux un avec de l'eau chaude. S'il y a une baignoire, c'est encore mieux. Bon, le camion, c'est moins cher que le bus. Mais ouais, le bus, c'est pas si cher pour le confort que c'est.
D'accord. Et t'es toujours avec les...
Avec les deux Français. Et de là, moi, je me sépare. Sur Gmail, toujours des contacts avec Maïté qui me dit qu'elle est à Piura. Donc je monte vers Piura, mais comme elle regarde pas ses mails tous les jours... Elle ne voit pas que j'arrive. Moi, j'attends 2 jours, je reçois un mail. Elle dit « Ah merde, mais elle me dit « Je suis plus à Piura, je suis à Mancora. » Mancora, c'est encore un peu plus au nord, au bord de la plage. Elle me dit « Yalla, vais à la plage. » J'arrive à la plage. Bon, elle est partie aussi. Quand, à chaque fois, j'ai dit « J'arrive, elle ne regarde pas les trucs. » Donc, une semaine à Mancora. Là, je trouve un super hospédaré. C'est les hôtels pas chers où il n'y a que des voyageurs. Il y a une cuisine, une douche collective. Donc il n'y a que des voyageurs, donc ça fait de la guitare. Ça raconte des conneries, la bringue, la plage, du surf.
T'as fait du surf ?
Ouais. Bon, allongé sur la planche, parce que dès que je me mets debout, je tombais. J'ai fait un peu de surf, un peu de trucs comme ça. Mais... Donc une semaine, après, c'est bien une semaine, mais au bout d'un temps, t'en as marre de la mer. Hein. C'est... Donc après, je pars en Équateur. Bon, l'Équateur, c'est super cher. C'est en dollars. Et donc tout revient à peu près au même prix qu'en France, quoi. La bière, l'hôtel. Dis bon, ben, ça coûte trop cher. Et puis là, j'étais à Mompiché. Mompiché, c'est tout à fait au nord de l'Équateur, quoi. Parce qu'au départ, oui, je me disais, ben, je remonte de là, puis je vais aller vers le Venezuela, à continuer vers le nord. Et là, remessage de Maïté, qui dit « Oh, désolé, j'ai pas répondu assez vite, maintenant je suis à Cusco. » Moi j'ai dit « Bah Cusco, bah, en même temps, je voulais y aller moi, Cusco, Machu Picchu, là là. » Ah, j'ai dit « Bah, je fais mon sac, je saute dans le bus et j'arrive. » C'est un peu comme si je partais de Stockholm et que je descendais à Madrid. Finalement, le kilomètre que j'ai mis trois jours, trois nuits de bus non-stop.
D'accord, t'as pas pris un camion.
Non, non, là, on a pris bus et j'ai traversé tout l'Équateur à fond, tout le Pérou, Lima à fond, de bus à l'autre, j'arrivais à la gare. Je dis, ben, moi, je vais là. Ah ben non, là, c'est plein, donc j'ai changé l'itinéraire, j'ai fait des kilomètres en plus pour arriver. Je suis arrivé à Cusco le 24 décembre.
C'était Noël.
Donc, ben, Cusco, c'est en bas, ça ferait un peu comme Millau. Quand t'arrives des plateaux, puis tu descends. Là, dans la descente, des feux d'artifice partout. Tu vois, tu dis, c'est la fête, quoi.
Ah, c'est pour moi.
C'est pour moi, ouais. Super chouette. Donc là, ben, j'arrive, c'était minuit et demi, quand je descends du bus. Donc, je me suis dit, ben, pour pas me prendre la tête, je prends le guide du routard, une adresse qui recommandait le truc le moins cher. Donc, je dis au taxi, ben, amène-moi là. Et j'arrive chez Carmen. Super endroit, super bonne femme. Donc je sonne à la porte. Ah ben bienvenue, tac. Pose ton sac, bois du champagne.
Champagne, carrément.
Ah ouais, ben c'était Noël, ils faisaient la fête. En fait, eux, ils habitent, ils ont leur appartement en bas. Et après, sur les étages, c'est des chambres louées. Bon, il y a beaucoup de Français, Belges, Québécois, beaucoup de francophones, en fait. Puisque recommandé par le guide du routard.
Oui.
Quand t'as Lonely Planet, il y a beaucoup d'anglophones. Quand t'as le guide du routard, il y a beaucoup de francophones. Et donc là, ben, Cusco, ouais. J'ai passé 15 jours, super chouette, puis Machu Picchu, j'y suis allé le 30 décembre, et là, pareil, retour du Machu Picchu, après plein de péripéties, parce que là où j'ai pris mon billet d'avion, n'était pas très sérieux, ce qui fait qu'il ne m'avait pas enregistré pour le train du départ de Cusco, pour repartir en train, j'étais pas inscrit sur le train, j'avais pas mon billet, j'étais pas inscrit non plus pour le collectivo qui nous ramenait du bled avant jusque-là, donc le temps de tout négocier... Et là, le chauffeur qui roulait, mais à fond avec sa vanette, là. À fond. Et il nous a apposé sur la place de Cusco, c'était minuit pile. Le 31 décembre, jour de l'an, repareil, grosse fête. Des feux d'artifice partout. Cusco, c'est beau pour faire la fête.
Puis pour faire les poumons. Des bars, les gens dans la rue.
Ouais. Puis, ben, grande ville historique. C'est vraiment à voir, aller là-bas. Il y a des murs construits avec des cailloux qui font 2 mètres sur 2 mètres. C'est des trucs... Même avec les technologies de maintenant, on n'arriverait pas à les soulever, quoi. Et tu passes pas une lame de couteau entre les cailloux. C'est maçonné droit.
Incroyable. Amazing.
Non, moi, je pense qu'il y a de l'extraterrestre dessous.
C'est sûr.
Ils ont dû découper ça avec des yeux laser ou... Je sais pas comment ils ont fait.
Et on le saura jamais. Bon, on s'écoute un petit morceau.
Allez.
On s'y remet. Allez. Mais je sais pas, la suite quoi, hein, Jean. Vas-y, balance.
Mi techo y mi comida, porque yo no. no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor.
Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
Y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi lecho y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor.
Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
De retour dans J'aime pas les au revoir avec Yann et on est au Pérou toujours si je me trompe pas.
Toujours.
Et du coup cette chanson qu'on vient d'entendre c'est, tu me disais, les mecs dans la rue.
Ouais, c'est les Argentins à la guitare, ils chantent ça assez souvent. Ouais.
Et c'est quoi pour se faire des ronds, ils font la manche
Ouais, ça travaille au chapeau ou même, même quand on est entre nous, autour d'une bouteille de bière... Non, porro. C'est ouais, pour ceux qui connaissent pas l'espagnol, c'est je veux pas travailler, je veux pas étudier, je veux juste jouer de la guitare et rigoler avec les copains, quoi.
Et ben, c'est ce qu'ils arrivent bien à faire, quoi.
Chaque problème nécessite une solution. Moi, j'ai trouvé la mienne. Je veux pas travailler, je veux pas étudier.
Bon, ben, ça te ressemble bien, tout ça.
Non,
non. Travailler, si, étudier, bon, peut-être un peu moins.
Un peu moins.
D'accord. Donc, Cusco, on est 31 décembre, donc ça.
Ouais,
enfin, même 1er janvier, je crois, parce que tu arrives à minuit.
Ouais, donc je reviens du Machu Picchu. C'était quand même super joli comme endroit.
C'est quoi le Machu Picchu ?
Machu Picchu, c'est une citadelle. Pareil que même date que les Colombiens, puisqu'elle n'a pas été finie. Et en fait, elle a été. Les Incas ont fermé les accès de cette vallée pour que les Espagnols ne la trouvent pas. Donc ils ont écroulé tous les chemins pour pas que les Espagnols les trouvent. Donc c'est pour ça que c'est encore bien conservé comme ça l'est.
D'accord.
Et bon, après, quand on va là-bas, chaque guide a ses explications. Alors ça va du. Maison secondaire de l'Inca, où il aurait eu ses harems et ces trucs-là. Et il y a une autre version qui disait que c'était plutôt l'équivalent d'une ferme, enfin d'une école d'agriculture.
D'accord.
Cusco, c'est au centre à peu près du Pérou. enfin du Pérou et même de l'Amérique du Sud. Il y a des chemins un peu comme le chemin de Saint-Jacques,
d'accord,
qui ont plein de ramifications et qui permet de relier un peu tous les quatre coins du pays. Et de ce qu'a expliqué le guide à qui j'en ai parlé et de mes recherches, c'était plus un endroit d'expérimentation et de partage en fait entre du savoir, de qu'est-ce qui pousse à un endroit, qu'est-ce qui pousse à l'autre, mélanger les graines, mélanger les traditions, les savoir-faire de chaque partie du pays. Parce qu'en fait, les Incas, c'était pas des conquérants comme nous, en fait. Et ils ont plus avancé en s'alliant avec les autres et en partageant leurs richesses plutôt que de se les piller. C'était plus de l'échange que du pillage.
D'accord. Bon,
ils ont perdu.
Voilà, c'est ça. Dommage. Et du coup, Cusco, tu me disais, t'as fait un peu de...
J'ai visité profondément, ouais. Donc là, je me retrouve sur la Plaza de Armas avec d'autres Français. On rigole en chahute et il y a une main qui me tapote dans le dos qui dit « Por favor, ¿qué es eso ?» Et là, je regarde et j'ai un bout de cellophane qui sort de ma poche. Je lui dis « Tiens, c'est quoi ?» Donc j'ouvre ça, hop, et dedans, y a 4 ou 5 graines de Marie-Jeanne. Alors, le policier me dit « Es una droga ?» Je dis « Non, non, es una futura droga, pero ahora no. Solo semilla. Si, si, es illégal, si jamais. » Donc, ils appellent un 4x4. Il y a un 4x4 qui s'arrête, ils montent dans le 4x4. Le 4x4 me fait faire le tour de la place à Derma. Donc finalement, il y avait 50 mètres pour aller à l'autre 4x4, mais là, non, ils me mettent dans un 4x4 pour aller dans un autre 4x4 pour aller au commissariat. Et là, ils m'ont gardé pendant 3 heures au commissariat, où je me suis efforcé à chanter à tue-tête « Je me souviens encore de ma première femme ». Donc j'ai pu chanter « Mort aux vaches » pendant 3 heures à tue-tête, accroché au barreau.
Ah, t'étais en cage et tout.
Ah ouais, dans les
pour
cellules.
Trois graines.
Plus de lacets, plus de cordons, plus de ceinture. À la totale. Et la police qui dit que j'allais finir en prison. Alors moi, je disais, yama la ambassade. Et puis, au bout d'un temps, ils m'ont relâché.
Ils aimaient pas.
Ils aimaient pas mes chansons, je pense, je sais pas. Ou peut-être qu'ils pensaient que j'allais leur filer un bakchich, que j'allais pleurer dans mes. J'allais pleurer et dire « Mais non, s'il vous plaît !»
C'était du racket.
Moi, je me suis dit « Ouais, j'ai pas trop su. » Parce que bon, je parlais pas, je parle toujours pas super bien espagnol. Ouais. Mais bon, je suis resté tranquille à me dire que de toute façon, il peut plus rien. Oui,
c'est arrivé. Une expérience, quoi. Voilà. Bon, démarrer l'année en garde à vue, c'est un peu...
Donc, du coup, je me suis dit « Bon, allez, Cusco, c'est bon. Ça fait déjà 15 jours qu'on y est. On a déjà écumé les bars.
Le
on a fait
tout ce qu'il y a. Voilà. Bon, allez,
maintenant que j'ai visité le commissariat... On va y aller, donc direction la Bolivie, à Copacabana. Donc là, première arrivée à Copacabana, je recroise Martin. Lui, il est brésilien, je crois. Brésilien, un gars que ça fait 20 ans qu'il voyage avec sa guitare. Il écume toute l'Amérique du Sud. Donc je le croise dès que je descends du bus, il m'amène dans son hôtel. Chez Marié, là. C'est le repère de tous ceux qui voyagent à pas cher à Copacabana. Une fiesta, pas possible. Plein les yeux, même un peu en dessous.
Ah ouais.
Je me lève le matin avec une gueule de bois, pas possible, à me dire non mais là, c'est trop bon. Faut pas rester là parce que sinon le voyage s'arrête ici. Donc de là, direction après La Paz.
Quoi, t'es sérieux? Tu t'es barré?
Ah, je me suis barré le lendemain. À me dire, si j'y reste, déjà le premier jour j'arrive, je retrouve tous les copains, enfin, je retrouve déjà un pote, tu fais plein de ramifications avec plein d'autres gens, tu te dis non, mais là... Pars vite, Tam.
Donc du coup,
direction La Paz. La Paz, j'y ai passé 3-4 jours, j'ai fait une descente, un truc qu'on m'avait parlé, que je voulais faire, le Camino de la Muerte, la route de la mort, une route qui maintenant est fermée, mais qui avant, y passait des camions, il y avait un truc comme 250 accidents par an, et un accident, c'est 5 ou 6 morts, parce qu'en général, c'est des bus ou des camions, il y a toujours du monde dedans et c'est super accidenté. Donc là, la balade qu'on a fait, on nous lâche en vélo à 4800 mètres et c'est 60 km de descente pour arriver en bas à 1200 mètres.
Ah oui.
Et c'est que de la descente. Alors une partie en route et puis après c'est du chemin de terre avec des lacets, des épingles, traverser des rivières.
Quoi, t'as un bon VTT oui.
Ah ouais, t'as un VTT, fourche suspendue, frein à disque, du bon vélo Scott. Pas de la merde, oui, c'est un truc pour les touristes. Hein.
Ils savent s'équiper.
Ouais, ouais, ouais. Et donc après.
Ouais, 60 km d'adrénaline.
Ouais. Ah ouais, parce que ça va vraiment vite, ouais. Ouais. Surtout quand tu.
Combien de temps pour descendre?
Ben, on met la journée à peu près. Parce que bon, il y a ceux qui suivent le guide, puis il y a le guide qui est derrière, qui ferme. Ben, il y avait des Américains, il y avait des trucs comme ça. Eux, ils vont pas vite. Mais bon.
Mais Yann, lui, il fonce droit devant.
Moi, je titille le guide à dire oh, on s'ennuie là. Ça va manier la mouille bien, la bicyclette. Hein. Donc, en sautant, ouais. Moi, je sautais d'un côté de la route à l'autre pour attendre les autres. Mais bien d'adrénaline, ouais. S'il y a quelqu'un qui y va, ça vaut le coup. Ça vaut l'équivalent de 30 euros, je crois. Pour une journée d'adrénaline, ça vaut le coup. Parce que sinon, ici, on loue qu'un VTT, il faut pédaler. Là-bas, on nous pose en voiture jusqu'en haut de la montagne. Et on nous ramène après. Avec les vélos sur le toit et tout. C'est pour 30 euros, ça vaut le coup.
Bon, du coup.
Donc, du coup, La Paz. Ben pareil, bien joli, quelques rencontres assez sympas.
Maïté ?
Et non, Maïté, parvue même à Cusco, quand je suis arrivé, elle est repartie. Problème de mail, c'est que ben, quand on appelle quelqu'un au téléphone, il décroche. Après, quand on est en voyage, on n'a pas forcément Internet tout le temps. Ouais. Donc on n'a fait que se réécrire. Tant pis. Les reverrai peut-être un jour ou pas.
Eh bien, Maïté, si tu nous écoutes, Maïté. Sache que tu es un fervent admirateur. Yann est là, il t'attend, donc nous sommes à Sainte-Afrique. N'hésite pas à pointer.
Aucune de l'église.
Aucune de l'église. Et du coup, là, quoi, c'est. T'arrives à la fin de ton histoire
ou... Ouais, là, c'est la Paz. Je me dis, il me reste une semaine pour monter à Lima. Donc je me dis, il y a Copacabana sur la route.
Ouais.
Donc retour à Copacabana. Copacabana, trois jours. Grosse fête les premiers jours. Visite de l'île del Sol.
Copacabana, c'est au bord de la mer.
Là, je vais à Sorata. La Paz Sorata. Sorata... Là, je tombe sur la route, un accident, un camion qui s'est retourné, qui a raté un virage, donc a dégringolé sur une centaine de mètres de dénivelé. Un gros camion citerne qui, heureusement, était vide, qui normalement transporte du gasoil. Donc le chauffeur, il est mort, mais la route est fermée. Et c'est là que la différence de culture en France, on dira, la route est fermée, on attend qu'il arrive une dépanneuse. Ou... Non, là-bas, on sort une pioche. Et puis, on creuse le talus à côté du camion pour qu'on fasse passer les voitures. Alors, une pioche, 10 bonhommes, et tu prends la pioche, 30 secondes, et tu tapes tout ce que t'as. C'est pas on s'économise ou quoi, c'est tu tapes, 30 secondes, une minute, tu passes la pioche à ton voisin, et il tape, jusqu'à réussir à faire le passage, de passer un 4x4. Une fois qu'il est passé 3-4 4x4, qu'il tasse le chemin, on bouche un peu les trous, hop, on fait passer les minibus. Et en 3-4 heures, 50 mètres de chemin dans un talus qui penche.
C'est creusé.
C'est creusé et ça, c'est reparti, quoi.
Bon, et du coup, on va pas tarder à arriver au bout, non?
Et je pense, oui. Parce qu'après Sorata, Copacabana, la grosse fête, les Argentins, où là, je vais chercher sur Internet, parce que je discute bien avec un Argentin, et j'essaie de faire comprendre la culture française. Donc sur Internet, je trouve le morceau de Brassens qui va nous passer peut-être en finale, je ne sais pas comment vous voulez passer.
Eh bien, allez. Et tu veux dire un petit coucou, coucou à tous ceux qui sont là-bas, tes potes. Vas-y.
À ceux qui ont encore la chance d'y être.
Ouais.
Ou la chance d'y retourner.
Bébé.
Non, un gros coucou aux voyageurs. Changez rien, de toute façon, il y a trop de travail.
Ça marche, allez, on se quitte avec Brassens, la mala reputación.
La chodrome.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Bon, c'est l'heure de se dire au revoir, malheureusement, hein, mon petit Yann.
Ouais, mais moi, j'aime pas les au revoir.
Ben, moi non plus, alors on va faire comme ça. Allez, ciao, bisous, à la prochaine, bye bye. Il y avait même Hugo dans le studio.
Wouhou.